When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vous vous demandez à quoi ressemble la vie d'un critique de cinéma ? Découvrez l'horrible vérité dans chaque épisode de la Réu d'écran large, avec les discussions, les débats et les engueulades de l'équipe.
Bon, on va Réu ?
Personne n'a fait d'accent québécois pour l'instant.
Ouais, t'inquiète pas.
Il a prévu.
Je m'y risquerai pas.
Bonjour, bonjour Alexandre et Mathieu.
Bonjour.
Salut.
Bienvenue à cette deuxième réu consacrée à Denis Villeneuve, le cinéaste québécois qui a prouvé qu'il n'y avait pas que Xavier Dolan dans la vie. À l'occasion de la sortie de Dune 2, c'est le moment parfait pour se replonger dans tous les films du bonhomme et en dégager deux ox intéressants pour plein d'articles et des potentielles vidéos. La dernière fois, on s'est concentré sur les 4 premiers longs-métrages réalisés au Québec par Villeneuve, qui lui a permis de se faire un petit nom, surtout, comme on l'avait dit, avec Incendie, nommé à l'Oscar du meilleur film étranger. Et donc forcément, à la foulée de ça, Hollywood commence à le titiller, et c'est comme ça qu'il part tourner aux États-Unis. Et donc c'est ce tournant qui nous intéresse aujourd'hui, et qui débute en 2013 avec la sortie remarquée de Prisoners.
C'est ça, parce qu'en fait, il avait tout gagné avec Maelstrom, il avait quasiment tout gagné avec Polytechnique, il a encore tout gagné avec Incendie, et il s'est dit, putain, il faut vraiment que je parte du Canada parce qu'en fait j'en ai ras le cul des trophées Jutra, donc il faut que j'aille ailleurs, et il est parti faire Prisoners, même si en vérité il n'est pas allé faire Prisoners tout de suite puisqu'il a tourné Enemy juste avant, mais qui va sortir un peu plus tard parce qu'il l'a tourné à Toronto, donc qui est une ville canadienne, même si qui est une de celles qui penche le plus vers les Américains dans l'esprit, avec la langue, etc. Et donc il est allé faire Prisoners, qui raconte en gros la disparition de deux fillettes et la quête du père qui est joué par Hugh Jackman pour les retrouver, et en même temps en faisant plus ou moins se faisant plus ou moins justice lui-même, et de l'autre côté un inspecteur qui lui fait son enquête du côté de la loi, quoi, tout simplement, en la respectant.
Oui,
même si même si on pourra
respectant.
Avoir certains doutes à certains moments, qui lui est joué par Jake Gyllenhaal, et du coup qu'il avait tourné avec lui Enemy juste avant. Et quand il a vu le rôle de Loki, puisque l'inspecteur s'appelle Loki, il a tout de suite pensé à Jake Gyllenhaal. Et donc, il s'est dit, voilà, ce sera pour lui.
On va commencer en plus maintenant que Jake Gyllenhaal est a priori un peu fucked up sur les bords. Je pense qu'il
va faire des rôles
comme
plus tard. Est-ce qu'il s'est mis en slip?
Je sais pas, mais c'est un projet qui date quand même d'il y a un petit moment, parce qu'à la base, ça devait être fait en 2009. Donc là, quand il fait ce film, on est en 2013. En tout cas, quand il sort en France, on est en 2014.
En 2013 en France.
Donc il sort en 2013 en France, mais il a tourné un an avant, en tout cas, enfin dans cette période-là. Et en fait, le film date, en tout cas, le projet date de 2009, puisqu'il devait être fait à la base avec Mark Wahlberg et Christian Bale, réalisé par Bryan Singer. Heureusement, on n'a pas eu ce film. On a pu passer à autre chose. Mais Mark Wahlberg et le personnage d'ailleurs de Hugh Jackman a failli revenir à Fassbender à un moment donné. Okay. Et DiCaprio était dans les conversations.
Waouh. En tout cas, casting vénère à chaque fois.
Voilà. En tout cas, ouais, ils étaient en mode let's go. Et Wahlberg était tellement attaché au projet qu'il est resté prod. Donc, il est producteur de Prisoners.
Ok.
Voilà. Mais moi, je suis pas un grand fan de Prisoners, même si je trouve que c'est un film qui fait. En fait, je trouve que c'est un film extrêmement efficace. C'est comment rentrer à Hollywood en faisant un film hyper efficace avec un un scénario finalement assez classique, même s'il a des petites particularités vis-à-vis des personnages qui sont plus ou moins prisonniers de leurs propres conditions, de plein de choses. voilà. Mais je trouve que c'est comment montrer que tu peux, avec, donc c'est son plus gros budget au moment où il tourne le film, hein, c'est 46 millions de dollars. Avant, il n'avait rien eu de plus que son plus gros budget, c'était
Incendie,
hein. Même si je ne connais pas le budget d'Ennemi, mais Incendie, ça a coûté 6,8 millions. Donc, on est, voilà, on passe à une autre catégorie de films, ouais. Vraiment, même si j'imagine que les acteurs ont quand même coûté un peu cher. Et c'est vraiment ça, parce que moi comme vous le savez, je suis un grand fan de David Fincher. Bon, et pour moi, c'est un peu un sous-Fincher, ce genre de film.
Bah, c'est d'ailleurs ce qui est intéressant quand tu dis à quel point le film a autant tourné, parce que tu te dis déjà, même en 2009, faire ce qui est quand même très légèrement un sous-Seven / sous-Zodiac, ça semble déjà un peu rance sur les bords, mais ils y vont quand même, ce qui est assez intéressant, comme enfin de relancer un peu le thriller ultra brosson américain à cette période-là. En 2013, ça semble déjà enfin, ce qui d'ailleurs a sans doute fait le succès du film, c'est que finalement il a été surprenant dans cette catégorie-là, alors que pas grand monde attendait un film réussi dans ce sous-genre qui semblait déjà un peu mort quand même.
Ouais, mais c'est vraiment la période où le grand public le découvre vraiment, pour le coup, avec un film américain, parce que Incendie a eu évidemment sa petite aura, mais on est dans une autre catégorie, forcément, avec Prisoners. Et c'est là qu'on commence vraiment aussi à voir sa mise en scène. Il travaille avec Roger Deakins pour la première fois
à la photo.
Et
ouais.
Visuellement, c'est quand même, il y a vraiment des plans assez dingues. Et pour l'avoir revu récemment, justement, pour cette réue, toute la partie finale, notamment la course-poursuite avec, enfin, pas vraiment la course-poursuite, mais plutôt.
Emmené à l'hôpital.
Quand il a retrouvé la gamine, donc le personnage de Jake Gyllenhaal, et qu'il l'emmène à l'hôpital, et qu'il y a, qu'on est dans la voiture, sur le siège passager, et qu'on regarde Jake Gyllenhaal à moitié en sang parce qu'il s'est pris un tir qu'il a failli mourir avec, qui saigne abondamment, et en même temps qu'on a les gyrophares bleus et rouges
et qui pleut
en extérieur, vraiment waouh, c'est trop beau quoi.
Ouais, non, mais même le plan un peu large sur la voiture qui esquive d'autres voitures pour aller qui dépasse d'autres voitures à ce moment-là, plus la pluie qui passe de manière un peu torrentielle, c'est quand même très très efficace.
Ça. Et je pense que le film, enfin en tout cas Denis Villeneuve a eu l'avantage pour ce film d'avoir un final assez pas épique, mais en tout cas assez tendu, ce qui vient enlever un petit peu tout ce qui, je trouve que le film est beaucoup trop long, il fait 2h35.
Ouais, c'est pour ça que je suis même surpris que tu parles d'efficacité, parce que c'est quand même un truc qui est beaucoup ressorti sur le film, à quel point il a un côté très lancinant mais qui a pas vraiment gêné les spectateurs à l'époque. Et effectivement, quand je l'ai relancé aussi, je me suis dit, oh, ça fait 2h30, je me souvenais pas que c'était aussi long. Ce qui est quand même aussi la preuve, quand même, effectivement, de son efficacité pour un film qui finalement prend quand même vachement son temps pour son atmosphère, et qui le fait plutôt pas mal.
Bah, disons qu'en fait, il y a beaucoup d'éléments qui s'étirent énormément, notamment le personnage, de David Dasmachian, je ne sais plus comment on prononce, je ne sais pas si je l'ai su d'ailleurs un jour, mais
merci de nous l'avoir fait découvrir, parce que si je dis pas de bêtises, c'est vraiment un de ses premiers gros rôles et il est incroyable dans ce rôle. Et par la suite, il y a toujours une carrière de second rôle jusqu'à un premier rôle récent là qui était très sympa aussi.
Ouais, c'est bon. En tout cas, c'est le pour replacer vite fait, c'est un des premiers suspects parce que il échappe. Il y a une veille pour se souvenir des deux filles disparues. En tout cas, voilà. Et lui, il commence à le poursuivre et il le perd de vue. Et donc, c'est joué par ce mec. Et il y a tout un arc vis-à-vis de lui qui s'avérera plus ou moins inintéressant.
Il se fait torturer, mais, quoi. C'est ça.
Bah, il se fait. Non, mais ça c'est. Enfin, t'as Paul Dano qui se
non,
fait.
Non, ça,
lui...
c'est pas celui-là. Pas le personnage de Paul Dano.
Mais lui, il se fait méchamment violenté par Jake Gyllenhaal qui pense.
Mais pour le coup, ce personnage est intéressant.
Bah oui, parce qu'en fait, il fait.
Parce et puis, il y aura une révélation finale.
Oui,
aussi,
voilà, il fait avancer l'intrigue. Oui.
Non, je pensais plus au personnage. Mais tu vois, du coup. De
oui, je vois tout à fait.
Mais tu vois, en gros, il essaye de le poursuivre en le voyant au loin détourner le regard bizarrement et en train de toucher, en essayant de prendre des éléments, des décors.
Une petite peluche.
C'est ça, une petite peluche pendant la veille nocturne pour les jeunes filles. Et après, il y a tout l'arc de qui est vraiment ce mec avec les mâles au serpent, notamment les labyrinthes, tout ça, qui dessine dans son appart, dans sa maison. Et ça, je trouve c'est un petit peu long parce que c'est quasiment une fausse piste. Mais
ouais, bah, je trouve en fait c'est souvent un peu le problème de Villeneuve quand il veut se la jouer malin. c'est comment cette malice de scénario a tendance quand même à vraiment s'étendre de genre clin d'œil, genre peut-être que c'est une fausse piste, tu sais pas. Et où en fait, bon, finalement, d'ailleurs, les fausses pistes se coordonnent toutes quand même, enfin, tout tourne autour des plus ou moins des mêmes personnages, ce qui est d'ailleurs un truc, une thématique, je pense qu'il avait aussi envie d'explorer avec ce film-là, que finalement, les gens sont les voisins qui habitaient pas très loin et que tout le monde est plus ou moins connecté. Donc il y a aussi cette idée de tu veux, comme veut le faire Hugh Jackman, en une espèce de survivaliste, te protéger à ce qui pourrait arriver de pire, mais en fait, de toute façon, le pire, il est déjà à ta porte. Et Villeneuve l'a toujours expliqué comme étant ce qui l'a fasciné dans le scénario, c'est non seulement le côté, la violence très rêche du film, mais aussi la manière pour lui que ça avait de parler de l'Amérique et de l'Amérique qui finalement renvoie à Polytechnique aussi, hein, dans cette violence où tout le monde possède des armes, tout le monde fait plus ou moins l'horreur, voire défi Dieu, comme c'est dit à un moment donné par l'un des personnages, parce que t'as à la fois ce fantasme de l'ultra-sécurité, mais qui en fait ne peut amener qu'à de la violence et de la justice expéditive qui, bah, la plupart du temps, est dans son tort, en fait.
Ouais, pour moi, c'est vraiment le traitement, justement, des fausses pistes qui rend le film beaucoup plus radical de ce qui se faisait à l'époque dans ce milieu-là, un peu à Hollywood, dans le sens où, bah, par exemple, la partie avec Paul Dano, tu comprends très vite que c'est une fausse piste.
Oui.
Et ça rend la chose d'autant plus horrible. Et du coup, je trouve que c'est ça qui rend le truc un peu... encore une fois, post-incendie, on sent qu'il y a une cruauté assez rare, je trouve, quand même, envers les personnages qui, à l'époque, mine de rien... Enfin, moi, c'est grâce à ce film que j'ai découvert le Villeneuve.
Moi aussi.
Je suis allé voir le film en salle sur conseil de la presse, en règle générale, qui avait beaucoup aimé. Et j'avais été assez marqué, parce qu'à l'époque, les thrillers américains que je voyais étaient quand même beaucoup plus sages, on va dire, entre guillemets.
Ouais.
Et toi, tu fais une comparaison avec Fincher, qui, je trouve, est très cohérente. Mais ça me fait pas mal penser aussi à Bong Joon-ho et à Memories of Murder. Tu retrouves la thématique de la torture et surtout l'idée de cette scène géniale finale de Memories of Murder du... c'était qui, bah, c'était un peu monsieur tout le monde, et là c'est vraiment le cas, quoi.
C'est exactement.
Et t'as, voilà, l'idée que ton voisin, c'est peut-être le mal à l'état pur, qui, encore une fois, s'est englobé dans un formalisme et une suite de symboliques qui, comme d'habitude, n'est pas des plus subtiles. Mais comme tu disais, pour le coup, je suis plutôt d'accord avec toi, Alex, c'est vraiment hyper efficace. Enfin, t'es accroché à ton siège et. Tu serres les fesses, quoi. Hein. Voilà.
Et puis on parlait aussi de direction d'acteur dans la précédente revue, mais là en particulier, oui, bon, oui. Hugh Jackman, tu l'as rarement vu aussi. En fait, c'est une super idée de l'avoir pris lui, tu vois, comme mec à la fois qui peut être super doux, très très sympa, et en même temps, tu sais qu'il a joué Wolverine, donc il a ce côté animal qui réveille au fur et à mesure du film, qui est vraiment vénère pour le coup. Et plus le mec s'énerve dans le film, plus tu te dis putain, c'est assez saisissant. Et en plus, il a pas besoin d'en faire des caisses puisqu'il te fait un plan large, enfin tu sais, un plan fixe au moment où il s'apprête à utiliser le marteau sur le gars et qu'il explose le lavabo à côté de Paul Dano. Tu te dis bon. Et en même temps, moi tu vois, c'est intéressant parce que je l'avais pas revu depuis la sortie, pareil, donc je l'ai revu et je me disais que c'était jusque-là un de mes Villeneuve préférés. Et en fait, bah, il est un peu redescendu dans mon estime, en partie à cause de tous les problèmes qu'on a pu évoquer plus tôt, mais où effectivement, alors déjà je trouve la symbolique à la fois très intéressante parce que pour son premier film américain, tu sens qu'il y a plein de trucs qui reviendront plus tard, notamment, donc il y a un des symboles majeurs du film qui est cette idée du labyrinthe, bon, qui est pas effectivement très finaude, mais qui est assez intéressante parce qu'il la ramènera de manière toujours plus métaphorique plus tard, de comment justement tu arrives plus ou moins à sortir de ce chaos de la vie et qu'il reflète non seulement de manière très littérale par le labyrinthe que les personnages dessinent, mais aussi par, moi je trouve ce plan pour le coup très beau de Hugh Jackman dans sa voiture avec le reflet de la vitre de la portière, cet arbre dont toutes les branches en fait se reflètent sur lui comme une sorte de, enfin tu sais, d'ensemble de neurones qui montre à quel point de toute façon il est perdu d'un point de vue corporel et mental. Donc il y a des éléments comme ça qui, je trouve, fonctionnent plutôt pas mal. Mais j'ai ce souci qu'effectivement, non seulement il en fait des caisses, et son esthétisation à outrance, grâce notamment à Roger Deakins, qui fait des plans absolument sublimes, moi, m'amène quand même à la question d'un côté, évidemment qu'il condamne... Est-ce qu'il condamne les violences? Je pense que oui, tu vois.
Non.
Je pense que oui, mais je peux pas m'empêcher de me dire que par rapport à Incendie, qui est vraiment très rêche dans sa violence, il prend quand même un certain plaisir à la filmer quand même. Et je trouve qu'il y a une certaine complaisance, tu vois, à certains moments, y compris, tu vois, avec la scène dont je parlais avec Hugh Jackman, où d'un côté, ça te saisit, et c'est aussi ça qui est efficace, mais je peux pas m'empêcher de me dire, quand il dit que la fin justifie les moyens, même s'il a pas l'air d'accord avec, il y a une partie de toi toi, en tant que spectateur, à ce moment-là, tu te dis, bah, en fait, est-ce que je serais pas quand même un peu d'accord avec Hugh Jackman et avec Jake Gyllenhaal quand ils viennent péter des gueules pour dire que, bah, si, il faut tout pour sauver les gamines, quoi qu'il advienne, en fait.
Ouais, mais c'est justement ce que je trouve qui est intéressant. C'est, ça reviendra, cette histoire de se faire justice soi-même, hein, d'une certaine manière, avec notamment Sicario. Mais cette idée que, finalement, les autorités, ou en tout cas les grandes instances, ne sont pas forcément en capacité, ou alors ne se donnent pas les moyens, vraiment, de trouver la vérité. Et donc, est-ce que je ne dois pas me débrouiller soi-même ? Et c'est quelque chose qui revient régulièrement dans des questionnements, et notamment, toujours aujourd'hui, mais cette idée de, finalement, est-ce que je ne me débrouillerais pas mieux ? Est-ce que je ne me ferais pas justice moi-même mieux si je prenais en main les choses, tu vois. Je dis pas que c'est quelque chose sur lequel on doit aller, bien au contraire, mais je me dis qu'il y a vraiment ce côté animal qui ressort régulièrement dans la manière dont on peut réfléchir à certains éléments et qui, du coup, peut correspondre. Je pense que quiconque voit ses enfants se disparaître et ne se dire mais où sont-ils, n'a qu'une envie, c'est de potentiellement tuer les gens qui les ont enlevés, ou en tout cas tués. C'est juste je dis pas que tu vas forcément aller jusque-là dans l'action, mais dans la réflexion de pensée, je pense que c'est forcément quelque chose qui te traverse l'esprit à un moment donné, et que du coup on se retrouve dans l'état d'esprit vraiment de Hugh Jackman, où au moment où il fracasse ce lavabo, qui me semble est une scène improvisée, où il pète un câble, et c'est pour ça que Paul Dano ne bouge pas d'un poil, parce qu'il ne sait pas ce qui va se passer dans cette séquence. Il me semble que j'avais lu ça. Il y a vraiment ce retour est-ce que je vais être capable de contrôler vraiment ce que je fais? C'est-à-dire, la société me dit qu'il faut que je contrôle tout, mais à un moment donné, il y a des éléments qui relèvent de l'incontrôlable, parce que c'est impensable. Ce qui m'arrive n'est pas pensable. Ce n'est pas humain ce qui m'arrive. Donc comment je peux avoir un comportement humain? Et c'est ça que je trouve assez fort. C'est certes un peu bourrin, et certes, je suis pas sûr que ça soit assez complaisant. Je trouve que justement tout ce qui est la violence est assez anti-spectaculaire et plutôt très réaliste justement et très brute.
Ouais, mais en fait c'est pas tellement ça. C'est plus quand même, j'ai l'impression, tu vois, un certain plaisir quand même de la scène d'action aussi qui devient quand même un peu plaisant à regarder aussi, tu vois, ne serait-ce que pour l'effet de suspense, mais qui renvoie souvent d'ailleurs à la problématique de il filme tellement bien le suspense que est-ce qu'au fond t'as pas du plaisir au moment où tu devrais pas totalement en avoir.
Mais tu vois, je suis pas tout à fait d'accord, parce que je comprends qu'on puisse avoir cette idée de vraiment, en fait, quand tu vois certaines personnes, tu te dis putain, j'ai vraiment il faut qu'il le fracasse, quoi, vraiment là. Et en même temps, quand il enferme le personnage de Paul Dano dans cette cabane, enfin pas cette cabane, mais dans cette
espèce de petite sorte
de trappeux placard qu'il a fabriqué lui-même avec une douche et un conduit d'eau chaude brûlante, probablement pour le torturer. Clairement, je me dis qu'il va un peu trop loin, en effet. Je ne suis pas du tout de son côté. Je me dis,
merci Alexandre pour cette analyse.
En fait, c'est pour ça que quand tu dis on est un, tu vois, on prend un peu du plaisir à ce moment-là, je prends aucun plaisir à me dire qu'il le torture. Lui, il a pas l'air de prendre du plaisir à faire ça. Et clairement, le personnage de Paul Dano ne prend aucun plaisir à vivre ça.
Donc, t'es en train de dire que c'est moi qui suis bizarre, en fait.
Ouais, je pense qu'en fait, peut-être que tu prends du plaisir devant cette séquence, et peut-être que tu peux nous en parler, mais n'en parle pas qu'à nous.
Non, par contre, ce que je trouve intéressant, pour moi, c'est le premier film américain de Villeneuve. Par contre, il porte un truc en lui qui est vraiment pertinent dans les films suivants, et qui renvoie à tout ce qu'on a pu dire et ce qui notamment pour moi sera fondamental dans Dune, en fait, qui est cette idée que face justement à cette absence de préparation, les personnages, donc surtout celui de Hugh Jackman en tant que vraiment mec américain un peu qui a dans sa cave 10 000 trucs de survivaliste, parce que comme il le dit, priez pour le meilleur mais préparez-vous au pire, ce que je trouve, bon, pour le coup, qui est un peu le mantra qui revient tout le long du film et qui est assez intéressant. T'as cette idée que si l'horreur frappe à ta porte et que tu n'es plus en mesure de contrôler quoi que ce soit, il y a un besoin fondamental de l'être humain de se créer quelque chose de, enfin, tu sais, soit de messianique, ce qui sera le cas dans Dune, ou au moins d'héroïque, de te dire je suis le héros de ma propre histoire. Alors qu'en fait, régulièrement chez Villeneuve, ce qui peut être déroutant dans sa narration, quand je trouve il prend pas toujours de pincettes avec ça, il choisit un parcours fondamentalement héroïque pour toujours le détourner à un moment donné. Ça reviendra vraiment dans Blade Runner en particulier, où il te détruit le deuxième acte en te disant bah en fait tu n'es pas le héros de ton histoire. Enfin, tu n'es pas l'élu, en fait. Et là, c'est un peu pareil. Pour le coup, c'est moi ce qui me touche beaucoup dans le film, de Jake Gyllenhaal qui refuse un peu d'être le fameux inspecteur trop doué qu'on dit qu'il est. D'ailleurs, au début du film, il n'arrive pas à l'être parce que là, cette affaire-là, il n'arrive pas à la résoudre alors qu'il a résolu toutes les autres avant. Et t'as Hugh Jackman en face qui, lui, dit c'est ma responsabilité, c'est à moi de sauver mes filles, c'est pas à la police, c'est à personne d'autre, c'est à moi. Et quand il le dit d'ailleurs dans la scène où Loki le chope en extérieur alors qu'il s'apprête à aller torturer Paul Dano et que finalement il fait semblant de s'acheter de l'alcool pour se bourrer la gueule pour dire je suis trop malheureux machin, il va dans la voiture et il lui dit à ce moment-là, il se tape sur la tête et tout et son torse en disant c'est à moi de sauver mes enfants. Et je trouve que là pour le coup ça renvoie à une thématique qui me semble fondamentale chez Villeneuve, de dire voilà, dans l'énergie globale de ce qui peut arriver de pire dans la vie, à quel point on a besoin soit de se créer des héros, soit de se créer des messies, et la plupart du temps de se créer nous-mêmes en tant que héros, ce qui évidemment sera le cas de Paul de manière très extrême dans Dune.
En tout cas, c'est une sacrée arrivée à Hollywood.
Ouais.
Et sacrée carte de visite, film très américain en plus du coup.
C'est oui, ça. Voilà. C'est la première fois que un de ses films est nommé à un Oscar, même si c'est l'Oscar de la photo, pour Roger Deakins. Évidemment. Mais c'est la première fois qu'il est nommé aux Oscars au-delà des meilleurs films étrangers. Et ça annonce un beau petit film derrière, même s'il a été fait avant.
Même s'il a été fait avant, à savoir Enemy.
Et oui, Enemy qui est peut-être son film le plus vaporeux, on va dire.
Cérébral
peut-être, oui. Qui est donc, oui, effectivement tourné avant Prisoners, mais qui est sorti après, qui est d'ailleurs distribué par A24 à l'époque où c'était un label.
Ok.
Dans au début une salle et ensuite c'était vraiment hyper limité, ça c'est, je crois qu'il a pas dépassé plus de la centaine de salles aux États-Unis notamment, mais je crois que chez nous il était plutôt bien distribué parce que moi j'ai pu le voir
des années en fait très longtemps. En fait le film est sorti en 2013 aux US, ouais, de manière limitée, et nous en France il a fallu attendre que Pathé récupère les droits et le sorte, mais des mois après.
OK.
C'est ça. Moi je me souviens que je l'ai vu en l'été 2014 après être sorti de mon job d'été.
Ah ouais. Ouais. Bah alors moi tu vois, pour la petite anecdote, c'était l'époque où il était possible qu'en tant qu'adolescent qui aimait le cinéma, il m'arrivait de traîner sur des sites pas très légaux pour choper des films.
Oh.
Et Enemy était dispo très très tôt, mais bien avant que même sa sortie française soit annoncée. Et donc du coup, je l'avais regardé de manière pas très légale. Et en fait, j'avais tellement pété un cap dessus. Parce que je pense qu'en tant qu'ado qui découvre le cinéma, quand tu vois un truc comme ça, où tu te dis, il y a tellement de pistes d'interprétation dans tous les sens, il y a tellement de trucs qui se passent. Et en même temps, le film est très plaisant à suivre, je trouve aussi. Tu vois, oui, ça dure 1h30, c'est très carré. Tu sens qu'il y a une progression, c'est pas juste nébuleux pour être nébuleux. Je l'ai revu une seconde fois pour pouvoir écrire dessus sur le blog sur lequel j'étais à l'époque. Et quand il est sorti en salle, mais des mois après, du coup, je suis allé le revoir en salle parce que je voulais le voir sur un grand écran.
Ouais,
et
ouais,
ça,
ouais.
C'était vraiment bien.
On a décidé de croire cette histoire. oui, donc, film assez nébuleux qui raconte donc l'histoire de... Alors, comment il s'appelle déjà?
Je t'ai noté Adam et Anthony.
Adam, voilà, et Anthony. Enfin, Adam, en tout cas, qui est un professeur d'histoire et qui découvrirait qu'il a un double, mais parfait, mais alors parfait au point que là, il a la même cicatrice.
Voilà,
c'est un peu étonnant. Et au fur et à mesure du film, on se rend bien compte qu'il s'agit très probablement de la même personne, même si le film ne nous donne jamais vraiment les clés de compréhension de manière verbale, quoi. Il n'y a pas de twist direct, car alors la photo est extrêmement marquée, il y a un héritage lynchéen assez évident, qui est d'ailleurs ce qui a beaucoup été critiqué aussi à sa sortie,
psychologisation.
Merci.
Des lois du marché.
Du personnage qui est donc joué par Jake Gyllenhaal. assez extrême. Et aussi une énorme symbolique autour des araignées qui parsèment le récit.
Yes.
Et donc, bah voilà, c'est un film qui a beaucoup fait parler de lui parce que c'est le genre de film que les gens adorent regarder cette fois pour en dégager une interprétation.
Comme moi.
Même si, selon moi, justement, il n'y a rien de lynchéen dans la manière dont il envisage la narration, dans le sens où on n'est pas dans une fantasmagorie onirique, on n'est pas dans un rêve, quoi. Il y a quand même une symbolique qui est assez évidente sur certains points.
En fait, c'est plus une sorte d'ailleurs pour toi, spectateur, de film d'enquête où c'est à toi de percevoir un maximum de trucs qui te tombent dessus, d'indices dans tous les coins pour te dire comment j'interprète ces choses-là. Voilà. Mais au final, c'est vrai que la progression du film en elle-même est assez fluide. Et c'est d'ailleurs, je pense, ça qui le rend très plaisant, en particulier quand t'es un peu jeune cinéphile. Enfin, je suis d'accord avec toi là pour l'avoir revu, ça fait un peu Lynch pour bébé,
ouais.
Mais ce qui est pas forcément une mauvaise chose en fait, c'est-à-dire que bon, lui-même cite Mulholland Drive quand même comme référent, hein, ce que je peux comprendre. Je pense qu'il filme Toronto pour le coup, qui est d'ailleurs, moi je trouve, l'un des trucs très réussis du film, sa manière de filmer la ville de manière assez labyrinthique, justement comme c'était un peu le cas chez Lynch, donc ah, peut-être pas avec la même maîtrise, mais il y a un truc dans l'architecture qui est assez passionnant avec le côté très structuré de la ville, et en même temps il choisit toujours des buildings qui ont des formes arrondies, qui ont des trucs un peu bizarres pour montrer la bizarrerie à un moment donné.
Il est toujours aussi fasciné par le brutalisme.
Ouais, voilà. Et donc ça, je trouve ça plutôt réussi. Et le film, moi, quoi qu'il advienne, en fait, ça reste un de mes préférés parce que, au-delà du souvenir que j'en ai de mes premiers visionnages, et donc du côté, voilà, très ado, l'importance qu'il a eu pour moi en tant qu'ado, je trouve qu'il est très très efficace et je me plais, tu sais, à le déchiffrer à chaque fois. C'est vraiment, tu sais, comme un puzzle où tu t'amuses à chaque fois de te dire, ah ouais, non, mais en fait, il y a ce truc-là que j'avais pas vu avant, il y a ce machin, et je, voilà, je m'amuse énormément de l'exercice que c'est, en fait.
Ouais, je suis assez d'accord, d'autant que, on pourrait lui reprocher, du coup, le côté faussement mystique, mais je trouve que là, ce qu'il raconte au-delà des pistes qu'il sème, enfin, du flou qu'il sème, et je trouve assez intéressant d'étudier donc l'adultère finalement hein, l'histoire d'un homme qui est incapable de se poser et de se conformer à une relation hétérosexuelle classique et ça le ronge un peu de l'intérieur au point de dédoubler sa personnalité. Je trouve assez bien traité de cette manière-là quoi, le fait qu'il évolue dans un univers un peu flou, disparate. Les deux personnages féminins d'ailleurs qui sont plutôt bien interprétés je trouve.
Oui, donc Mélanie Laurent
et Sarah Gadon.
Voilà. Et donc ouais, je trouve le truc assez intéressant d'autant que techniquement ça fonctionne vraiment bien, les effets spéciaux sur les araignées incrustées ici et là, ça marche vraiment beaucoup. Et bon, encore une fois, on peut débattre 15 000 ans de leur puissance symbolique est assez évidente, d'autant que là, il cite très explicitement le maman de Louise Bourgeoin.
Ouais, donc une sculpture qui a beaucoup voyagé d'ailleurs, ouais. Et qui là, enfin, représente en particulier une araignée que tu vois sur un plan large du film, qui où vraiment l'araignée, comme un kaiju, débarque sur la ville.
C'est ça qui est une image assez entêtante. Et... Ouais. Bon, la sculpture s'appelle Maman et la scène est après sa rencontre avec sa mère, donc.
Bah, voilà, quel truc quoi. Assez intéressant quand même sur à quel point, effectivement, au-delà de la question de. Comment il peut ne, enfin, il ne parvient pas à s'engager dans une vie amoureuse, d'autant qu'en fait, donc Sarah Gadon, la femme d'Anthony, est enceinte, tandis que Adam lui sort avec, donc a priori c'est sa fiancée qui est jouée par Mélanie Laurent, mais c'est pas totalement clair, et donc tu peux supposer effectivement que c'est sa maîtresse. Mmh. Et j'aime beaucoup effectivement le rapport à la parentalité déjà aussi, parce que ce qui est, moi je l'avais même pas remarqué ce détail-là en fait avant. Mais où en fait quand il débarque pour la première fois pour récupérer un courrier d'Anthony en tant qu'acteur, parce que ça on l'a pas dit, mais Anthony est acteur tandis que Adam lui est prof d'histoire, donc il y a déjà aussi le fantasme d'une carrière dans la culture et dans l'art et tout ça, et donc Adam va récupérer un courrier d'Anthony et on lui dit ah vous êtes pas passé à l'agence depuis 6 mois, et la femme d'Anthony est justement enceinte depuis 6 mois, donc tu peux supposer aussi qu'il se dit qu'il se doit d'avoir des responsabilités professionnelles à l'arrivée prochaine de son enfant, et donc il ressent lui une entrave, mais qui est la sienne aussi, tu vois, de la condition féminine qui serait une sorte d'emprise sur lui, alors que c'est lui aussi qui est incapable d'être fidèle a priori et de voir au-delà justement non seulement de l'araignée, mais aussi des toiles qu'elle déverse partout, puisque ça c'est un truc que je trouve assez beau dans le film, non seulement d'une vitre brisée de voiture qui reflète une toile d'araignée, mais aussi du tramway qu'il prend au sein de Toronto où les fils de la toile d'araignée, enfin les fils du tramway font toile d'araignée qui l'enferme en permanence. Ouais. Je trouve l'idée plutôt maligne.
Oui, et du coup plusieurs années après Polytechnique, on a quand même une thématique qui se dégage, qui est rarement évoquée, je trouve, à partir de son cinéma, qui est la thématique d'une forme de misogynie finalement, parce que dans Enemy il y a vraiment ça qui se dégage dès la scène d'introduction qui montre ce fameux club où il peut pas s'empêcher de revenir, où bon, la façon dont c'est mis en scène, c'est vraiment le spectacle absolu de la nudité féminine par une des rangées d'hommes complètement lubriques là,
et si l'araignée reflète la femme, oui. La première femme sort une grosse araignée pour l'écraser de son talon, donc il y a aussi là-dessus un truc qui est quand même symboliquement
absolument.
Assez
fort. Tout fameux tout dernier plan, enfin l'avant-dernier plan du film, qui est une araignée qui se regroqueville de peur face à lui, parce qu'en fait en se dédoublant comme ça, incapable de ne pas céder à ses pulsions comme lui, ouais. Il les appellerait, devient un peu dangereux quoi, et d'ailleurs il vire complètement au fur et à mesure du film, hein, et le personnage est assez peu aimable.
Oui.
On a vraiment du mal à s'attacher à lui, enfin on ne s'attache pas du tout à lui-même. Et donc ça fonctionne plutôt bien, et bon du coup performance, je trouve une des meilleures performances de Gyllenhaal,
peut-être parce qu'il joue pas beaucoup.
Bah, en vrai les deux personnages sont quand même assez ils sont assez différents, mais ils ont quand même pas mal de points communs, Et c'est assez malin, je trouve, comment il arrive à jouer ça. Bon, alors, il faut savoir que le film a été pensé parce que Villeneuve avait...
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Peur d'aller à Hollywood, il dit que au début il voulait faire ça quand il était gamin, mais il dit avec humour souvent que quand il a commencé à faire des films où il avait plus de liberté au Canada, il s'est bien rendu compte que Hollywood était en gros un endroit où, je cite, hein, les gens font la queue pour pouvoir faire Lolita malgré moi 47, quoi. C'est comme ça qu'il voyait la chose, et du coup il a eu beaucoup de projets américains qui lui sont passés entre les mains, mais à chaque fois il cherchait le bon. Et le moment où il a voulu faire aussi Prisoners, il aimait bien l'idée d'en faire un film plus personnel, plus cryptique peut-être aussi, comme une sorte de companion piece, comme on dit, un truc qui lui permettrait de se prouver à lui-même qu'il peut garder le contrôle, en fait. Mmh. Et donc il a envoyé le scénar à Guylenol avec une petite lettre qui lui explique pourquoi il le veut, et ensuite ils se sont rencontrés, etc. Et ça a vraiment bien matché au point qu'il l'a récupéré ensuite pour Prisoners, et je trouve que leur collaboration elle fonctionnerait bien, parce qu'il dit aussi à l'époque qu'il se cherchait pas vraiment une muse mais un partenaire artistique, on va dire, pour vraiment avancer. Et c'est vrai que la présence de cet acteur là lui a permis quand même de vraiment débarquer à Hollywood en confiance, quoi. Il arrive, il a fait son gros film américain quasiment en même temps, il a fait son gros film américain avec bien les codes américains mais qui en même temps les transgresse un peu, et son truc proto-lynchéen un peu cryptique que les gens vont s'amuser à décrypter pendant encore des années,
c'est ça.
Il a toutes les clés en main, et j'ajouterais aussi que pour moi Enemy marque une transition positive par rapport à sa période canadienne, qui à moi, il y a un truc que j'aime vraiment pas dans ses films canadiens, enfin c'est le truc qui m'embête le plus, qui est la musique. notamment l'exemple plus dont on aurait pu parler d'ailleurs la semaine dernière, c'est Radiohead dans Incendie, que je trouve what the fuck, j'adore la chanson, mais non,
ouais, en fait c'est too much, ouais,
et au-delà de ça, tu vois, il y a beaucoup des plages de musique extra-diégétique qu'on connaît déjà qui débarquent souvent sur ses films, et je trouve ça un peu lourdingue. Et là, la musique de Enemy, ce truc complètement hypnotisant, qui complètement planante, si est vraiment à son style pour le coup. Et bah sur Prisoners, il y avait Johan Johansson, c'est leur première collaboration.
Oui, c'est vrai.
Vraiment, on sent qu'il a réussi à s'accaparer un truc américain et qu'il le fait bien.
Ouais, bah moi en fait, ce que je trouve avec Enemy, c'est ce que tu disais. Il y a je trouve qu'il y a ça forme une vraie belle transition, mais à plein de niveaux. Je trouve que ça vient amener pour la première fois ce qu'on va remarquer, ce que j'ai remarqué perso dans la plupart de ses films ultérieur, c'est cette fascination pour filmer des plans en hauteur, enfin de zénithaux, ou en tout cas de loin. Donc dans Sicario, t'as les hélicoptères, ben dans Blade Runner, c'est un peu les vaisseaux. Dans Premier Contact, ben globalement, il y a un vaisseau alien aussi. Il y a les arrivées avec les hélicoptères. Dans Dune, ben, c'est tous les paysages qu'on filme de haut, etc. Et donc là, il y a ce commencement déjà avec la ville, comment il la filme, etc. Et comment il vient finalement placer ses personnages dans une sorte de... Enfin, les mettre un peu comme des fourmis dans un labyrinthe immense, qui vont essayer de se perdre, etc. Et qui vont avoir du mal à se sortir. Et il y a aussi, évidemment, cette question de la... double vie, parce qu'en effet pour moi c'est évidemment une métaphore d'une double vie qu'il se cache dans son subconscient, finalement, le personnage de Jake Gyllenhaal. Mais il y a aussi un peu cette idée, parce que c'est aussi la deuxième fois qu'il adapte un livre qui s'appelle L'autre comme moi de José Saramago, qui date de 2002, hein, donc le livre date d'il y a quand même un petit moment quand il le fait. Mais il y a aussi cette question du surpassement de Denis Villeneuve lui-même, en fait, en tant qu'artiste, de... Je suis peut-être qu'un petit prof d'histoire, hein, dans l'idée, en tout cas, je ne suis qu'un petit cinéaste qui a fait quelques films dans mon pays, etc. Et j'ai envie d'aller plus loin, de devenir la grande star que tout le monde reconnaît dans la rue, et de devenir celui qui va créer des grands films, donc en tout cas des films hollywoodiens.
D'autant que là, la transition se fait par le cinéma, puisque du coup, Adam découvre l'existence d'Anthony par l'un des films dans lequel il a un troisième rôle, même pas. Enfin, il est plus ou moins figurant.
En plus, en interview, Villeneuve disait que s'il devait définir le film, ce serait un voyage dans soit son subconscient, soit celui de Gyllenhaal. Alors, j'ai pas envie de passer beaucoup de temps en ce moment dans le subconscient de Gyllenhaal, mais ouais, c'est comme ça qu'il en parle. Donc vraiment.
Bah, et puis ça nous renvoie d'ailleurs à plein d'autres trucs. Où je pense d'ailleurs que la question du subconscient qui réémerge des personnages est quand même assez essentiel dans le cinéma de Villeneuve après, parce que ça revient évidemment dans Premier Contact sur la façon dont le personnage d'Amy Adams perçoit le monde autour d'elle, et puis d'une là aussi où d'une démarre quand même sur donc avec la fameuse voix ténébreuse des Sardaukar, sur le premier d'une démarre sur les rêves sont des messages des profondeurs, enfin des abysses selon comment tu le traduis. Je pense qu'il y a quand même quelque chose d'assez évident là-dedans, et je suis assez d'accord avec vous. Je pense que la transition que fait Villeneuve à ce moment-là vers quelque chose de, enfin, qu'il ose quelque chose d'aussi explicitement cérébral pour définir des thématiques qui seront les siennes me semble vraiment pertinent. D'autant que, pour moi, par rapport à ce qu'on disait à la première réu sur ses tout premiers films québécois, il y a toujours, je trouve, cette crainte non seulement de la mort, mais aussi, encore une fois, de l'héritage et de, est-ce que cette génération qui est la sienne et celle de ses personnages n'est pas déjà une génération un peu perdue? Qu'est-ce que tu peux laisser aux autres? Qu'est-ce que tu peux laisser après? Et là, c'est marrant parce que c'est toute la thématique du personnage aussi de Gyllenhaal en tant que lui individu égoïste qui n'arrive pas à s'investir dans une vie à plusieurs, que ce soit avec sa femme ou avec son potentiel enfant plus tard. Et c'est aussi tout ce que dit le film. Et ça, d'ailleurs, ça renvoie à un truc qu'on n'a pas encore évoqué, mais dans quasiment tous les films de Villeneuve, tu as des portes d'entrée thématiques qui te sont données par des cours, parce que quasiment tous les films, en fait, effectivement, sont passés à l'école, doit ressortir, mais ça revient dans Incendie, où du coup, elle est assistante en maths, ça revient dans Polytechnique, bien sûr, évidemment.
Dans Ennemi.
Et là, dans Ennemi, ça revient parce qu'il est prof, et que du coup, il est prof d'histoire, où il te parle de la répétition des événements historiques.
Ouais, de la même manière que dans Incendie, il énonce le programme du film, ouais, en fait, à travers un universitaire.
C'est ça, parce qu'il te dit que Hegel parle de la répétition des événements historiques, et que Marx a complété ça en disant la première fois que l'histoire intervient, c'est une tragédie, et la seconde fois, c'est une farce. Et tout le film, d'ailleurs, je m'en étais même plus rendu compte, fonctionne sur l'idée d'une boucle, puisque il reçoit un appel de sa mère, qui est un répondeur téléphonique, et il va dans le club, et à la toute fin du film, on le prévient que sa mère veut l'appeler, et qu'il reçoit la clé lui permet d'accéder au club. Donc finalement, effectivement, ce que t'as vu du film, c'est la tragédie, avec la mort symbolique d'Anthony vers la fin dans un crash de bagnole. Mais en fait, le retour inéluctable de la même fin. Donc voilà. On peut, je pense, trouver ça. Enfin, là, tu vois, même à l'édicter comme ça, je trouve ça pas si subtil que ça. Mais je trouve que dans l'énergie globale du film, ça fonctionne extrêmement bien.
Et il est très plaisant à regarder.
Ouais, donc, voilà, c'est ça. Mais on passe peut-être ensuite à son plus gros morceau hollywoodien qui n'est pas de la science-fiction, à savoir le thriller Sicario.
Ah, voilà.
Il attend que
Allez,
ça.
Voilà, le grand film. Voilà, non, pour moi c'est vraiment on replace rapidement juste en contexte, mais en gros on est à la frontière entre le Mexique et les États-Unis. Il y a une jeune agente du FBI qui s'appelle Kate qui est en train de s'occuper de tout ce qui est trafic de drogue, etc. Mais
enlèvement justement.
Ah oui, non, elle c'est ça. Elle fait partie d'une branche uniquement pour l'enlèvement, et en fait elle est embauchée, en tout cas enrôlée, elle est détachée en tout cas de son corps du FBI pour être attachée à un groupe d'intervention d'élite qui lui s'occupe du trafic de drogue et qui est dirigé par le gouvernement un peu en loose day, quoi.
Parce que c'est la CIA, voilà. Quoi, mais c'est pas vraiment dit au départ.
Voilà. Et puis elle va se rendre compte qu'en fait ses convictions personnelles, tout ça, et professionnelles vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de plein de choses, vont basculer au fur et à mesure de toute son aventure avec ce groupe-là, notamment parce qu'il y a un personnage assez mystérieux qui est joué par Benicio del Toro, qui s'appelle Alejandro, voilà, ou Medellin, tout simplement, pour les intimes, voilà. Non mais alors moi j'ai beaucoup d'affection pour ce film, mais peut-être aussi parce que je l'ai découvert à Cannes, à 10 mètres de l'équipe du film. Quand je dis 10 mètres, j'étais peut-être à 5 mètres. Peut-être 2 mètres, peut-être que j'étais sur les genoux de Denis Villeneuve. Non, mais en gros, j'ai adoré. En fait, j'attendais ce film plus que tout parce que, alors, j'avais découvert Ennemi juste avant, Prisoners et tout. Je connaissais un peu toute la filmo très connue, donc Incendie, tout ça. Et comme c'était un film qui était en compétition à Cannes pour la Palme d'Or, je me disais, waouh, mais ça doit être particulièrement bah c'est intéressant d'avoir un film un peu de genre vraiment
hollywoodien
à ce niveau la bande annonce ressemblait un peu, enfin encore je suis pas sûr qu'on avait beaucoup d'images à cette époque là mais il y avait cette affiche magnifique où t'avais une personne, enfin un militaire qui avançait dans un tunnel et qui enfin visuellement était complètement folle, et je me suis dit ok let's go. Et en fait je trouve que le film est absolument passionnant dans la manière dont il va, tu parlais de bascule dans ces films, notamment de cette idée de nous ne sommes pas vraiment les héros de notre propre histoire. Et il y a vraiment quelque chose comme ça dans ce film par rapport au personnage d'Emily Blunt, donc de Kate qui est jouée par Emily Blunt, qui moi m'a vraiment énormément marqué lors du visionnage, cette manière dont elle est au fur et à mesure dépossédée de sa propre histoire et dépossédée d'autant plus qu'elle est une femme. On parlait des questionnements dont sont victimes les personnages féminins dans Polytechnique lorsqu'elle passe son entretien, etc. Mais quand elle est embauchée elle-même dans ce corps de groupe d'élite, elle répond aux mêmes questions, hein, c'est-à-dire est-ce que tu as un mari ? Non, je suis divorcée. Bon, bah, c'est bien arrangeant, dis donc. Et est-ce que tu veux des enfants ? Est-ce que tu en as ? Non. Bon, bah, tant mieux, on va pouvoir t'embaucher, en fait, tout simplement. Parce que ce qui va arriver n'est pas, on ne le donnerait pas à une femme, globalement, ce qu'on peut comprendre de tout ça. Et au-delà de ça, je trouve qu'en fait, c'est un film qui est très beau par rapport à tout ce questionnement de ce sexisme ordinaire, finalement, et qui est même accepté par la société telle quelle, parce qu'elle est régie par les hommes, qui est, je trouve, très forte. Et encore plus, ce que je trouve très fort, c'est la mise en scène, globalement, de Denis Villeneuve, qui, pour moi, vient vraiment mettre un coup à tout le monde à ce moment-là, par rapport à tout ce qu'il a fait avant, même si je trouve que Prisoner, c'est hyper efficace. Je n'ai jamais été aussi tendu devant un film de Denis Villeneuve avant Sicario, en tout cas, autant que devant la scène notamment de la frontière.
Ouais, ils traversent la frontière en voiture.
C'est ça, en gros, ils traversent la frontière pour aller au Mexique au début, donc tout leur groupe avec 4 véhicules. Et on les suit en temps réel, voire quasi temps réel, en tout cas, aller au Mexique, récupérer quelque chose et ensuite récupérer quelqu'un d'ailleurs.
Quelqu'un, oui. Quelqu'un.
Plutôt que quelque chose. Et ensuite revenir, se retrouver bloqué et devoir juste faire gaffe à leurs arrières, tout simplement. Et il y a une tension à ce moment-là. Et je trouve que le film fonctionne comme ça par à-coup sur la tension. Il y a énormément de choses, genre, j'y reviendrai, je vais pas monopoliser la parole, que je trouve belle. Mais cette manière dont qu'il a de créer une tension permanente sur de toutes petites choses. Hein, donc une traversée de frontière, ensuite ça va être une traversée d'un tunnel. Après, il y aura aussi le suspense lors d'une rencontre, quand elle revient chez elle avec un homme, etc. Et donc, c'est là que je trouve que Denis Villeneuve, moi, pour la première fois, m'a vraiment, vraiment impressionné.
J'en garde pas. En fait, je l'ai vu en salle.
Terrible.
Et je l'ai...
c'est le moment où on va démonter tout ce qu'a dit Alexandre.
Non, mais
on va pas être méchant.
Je te moque en disant qu'on est odieux parce que... Un jour, on a dit dans la rédac en mode de grosse hot take qu'on préférait la suite.
Ouais, c'est horrible.
Parce que Sicario a une suite donc par
Stefano Solima.
Toujours scénarisé par Sheridan, si j'ai pas de bêtises.
Ouais, oui, d'ailleurs, ça faut le rappeler, c'est quand même un des premiers gros scénarios de Taylor Sheridan. Donc avant qu'il ne scénarise également Comancheria, qu'il ne réalise Wind River, et surtout que plus tard il devienne le showrunner préféré des Américains avec Yellowstone, et qui questionne toujours la place des États-Unis dans le monde actuel, donc c'est toujours très intéressant. Et là, c'était son premier grand coup en fait à Sheridan avec ce film-là. Donc.
Oui, voilà, tu pars toujours de cette phrase pour nous la remettre dans la gueule. Mais j'aime beaucoup Sicario quand même. Moi aussi, à l'époque, j'avais beaucoup aimé. Alors, je l'ai vu probablement à plusieurs milliers de kilomètres de Denis Villeneuve, malheureusement, parce que je l'ai vu dans mon multiplex lillois. mais ça n'a pas empêché que, effectivement, je trouve le film extrêmement tendu, mais j'ai du mal à l'époque, enfin encore une fois, faut que je le revoie, j'ai eu du mal à saisir la densité thématique qu'il y avait dedans, qui était pour moi beaucoup plus prégnante dans Prisoners et dans Enemy. Mais franchement, je suis toujours pour les films tendus. Et d'ailleurs, la raison pour laquelle je pense on aime un petit peu plus le deuxième, peut-être, outre le côté un peu provoqué, il y a aussi le fait que le deuxième, pour le coup, ne cherche vraiment qu'à faire du suspense.
Je suis pas totalement d'accord. Je trouve que le 2 thématiquement est très fort, parce qu'en fait j'ai un petit problème avec le 1. En fait, j'arrive pas totalement à savoir à quel point c'est dû à Sheridan de base ou à Villeneuve, parce que Villeneuve assume lui-même que c'est lui qui a imposé que le personnage principal soit justement une femme. Mais je sais pas à quel point même son écriture en général était celle de Sheridan dans l'idée que t'as évoquée de cette dépossession progressive du personnage. Moi, c'est le seul truc qui me dérange dans Sicario, c'est que je trouve du coup que Villeneuve, dans l'absence de subtilité qu'il caractérise, traite quand même d'un sujet extrêmement complexe et ambigu sur plein d'aspects, sur quand même comment, face au cartel de drogue, bah en fait la CIA intervient dans une juridiction qui n'est pas la sienne, comment ça amène une violence plus ou moins vengeresse qui n'a pas lieu d'être, mais où en même temps c'est plus ou moins nécessaire quand même, parce que le nord du Mexique c'est devenu un chaos absolu.
Une sorte de zone de non-droit.
Ouais, voilà, une zone de non-droit. Donc il y a toute cette complexité-là dans le film, et en même temps donc, les agissements notamment de Benicio del Toro et de Josh Brolin, donc agent de la CIA plus ou moins en tsum-tsum, devraient pas du tout avoir lieu. Mais en fait, du coup, t'as le personnage d'Emily Blunt, et en fait, j'ai rien contre le fait de prendre un personnage qui devient plus ou moins passif au fur et à mesure du film. Le problème de ça, c'est qu'elle est jamais vraiment mise à l'épreuve dans ses choix. Puisqu'en fait, elle reste toujours, elle, du bon côté de la barrière. Et du coup, elle devient cette espèce de porte d'entrée pour le spectateur du « je découvre un peu béate ce monde qui n'est pas le monde auquel je croyais. » Et où tu te dis « meuf, tu travailles pour le FBI sur la frontière mexicaine. Tu vas pas me dire que tu sais pas comment les trafics fonctionnent et à quel point, en fait, tout est connecté. Qu'en fait, les États-Unis ont plus ou moins créé leur propre monstre et ont, justement, pour y répondre, créer des monstres pour combattre des monstres, ce qui d'ailleurs pour moi est le truc le plus intéressant en soi dans Sicario, qui est là aussi comment ça renvoie à ce que Dune fera plus tard, de comment la prophétie Bene Gesserit finalement est réappropriée par Paul, et où comment le génocide Atreides est finalement réapproprié par celui qui aurait dû y laisser sa peau. Et je pense que Villeneuve, tu vois, il met des choses comme la manière dont les États-Unis ont finalement aidé à l'émergence d'Al-Qaïda avant que ça se retourne contre eux plus tard. Et pour moi, c'est l'un des sujets de Sicario, et je pense que Sheridan en particulier veut en parler à travers le scénario, mais je trouve dommage d'avoir cette espèce de personnage qui, au demeurant, est très intéressante en tant que femme, justement, un peu, enfin, qui essaie de trouver sa place, mais je la trouve trop béate dans l'écriture et trop, enfin, en soi, je trouve le film trop bête là-dessus de se dire le spectateur est trop bête pour comprendre la complexité de la situation. Il faut qu'il y ait un personnage qui lui dise « Ah là, c'est pas gentil quand même ce qui se passe. » Et ça m'emmerde un peu parce que... Et ça, c'est pas dans la suite. Et c'est pour ça que je préfère la suite.
C'est vrai que maintenant que tu le dis, peut-être qu'aussi une des choses qui font que je passais un peu à côté de la densité thématique du film, c'est que le sujet de War on Drugs, comme ils disent, donc la guerre faite aux drogues du nom d'un fameux discours américain, c'est un sujet qui me passionne en fait. Je trouve ça intéressant. Comme tu dis, il y a un côté... un pays qui nourrit le dragon, qui le mord, tu vois, c'est un truc hyper documenté. Il y a toute une histoire de la répression des drogues et comment ça se retourne sur les usagers, mais aussi les gens qui la nourrissent. Enfin, ouais, c'est hyper complexe. Et je pense que j'ai été probablement inconsciemment un peu frustré que le film ne l'aborde finalement que très peu et un peu en surface, je trouve. Là où le sujet est d'une complexité, d'une noirceur en plus, qui sied vraiment bien au style Villeneuve. Mais il faut que je le revoie.
Mais en fait, je suis d'accord avec vous dans l'idée que le film n'est pas forcément... je pense qu'il est victime un peu du même syndrome que Prisoner, c'est-à-dire que le film n'a pas non plus un scénario ultra original. C'est pas la première fois qu'on voit une histoire sur le trafic de drogue et comment un personnage se rend compte que finalement, les méchants sont pas forcément que des... En gros, il n'y a pas que les méchants et les gentils, et que finalement... la violence est renvoyée dos à dos d'une certaine manière, elle est plus ou moins c'est un cercle vicieux quoi, le trafic de drogue créé par une forme de violence autoritaire sur certains éléments qui lui-même va essayer de réguler cette violence, mais quand il régule cette violence, et c'est ce que je trouve très beau dans le dernier film de Sicario, c'est que finalement la violence dans la manière dont ils vont la réguler va créer une autre violence qui en fait est une boucle sans fin. Que moi je trouve assez pertinente et assez pas bouleversante, parce que tu disais que le personnage d'Emily Blunt, ce qui lui manque un peu, c'est qu'elle semble un peu benette quoi, globalement.
Elle est écrite comme étant une porte d'entrée pour le spectateur, ce que je peux comprendre dans l'idée, et d'ailleurs la suite l'aura pas, et Sheridan va un peu l'enlever dans ses films suivants, mais Du coup, c'est pour ça que je sais pas à quel point ça incombe à Villeneuve d'avoir écrit, enfin, à ce que le personnage soit présenté comme ça, en fait. Où je comprends l'impuissance, je comprends la volonté, tu vois, de la déposséder de son propre récit en cours de route, c'est même super fort comme idée. Mais il y a un peu le fait que, pour moi, elle n'est jamais vraiment contrainte de passer de l'autre côté. C'est-à-dire, même à la fin, on lui demande de signer le papier pour lui dire que tout s'est bien passé. Ouais, elle finit par le faire.
Oui, mais.
Mais sous la contrainte.
C'est difficile de.
Idéologiquement parlant, en fait, elle est jamais vraiment tiraillée, tu vois. Elle se dit jamais, ah, il y a quand même une certaine. Valeur à faire ce qu'ils font, alors que pour moi il aurait fallu qu'au milieu de film, tu vois, elles se disent ok, j'accepte les règles, et que elles se rendent compte de l'horreur vers la fin. Mais du coup elle est un peu tout le temps indignée par la situation, ce qui moi m'agace un petit peu, en fait.
Ok, non mais je vois ce que tu veux dire. Moi je trouve qu'en fait c'est super beau que le film qu'en fait à la fin elle en effet elle signe, mais elle le signe quand même sous la contrainte, hein. Il a quand même une arme sous son menton et bon, globalement si elle signe pas, il lui explose le cerveau, donc voilà. Donc oui, elle signe parce que finalement elle a sans doute elle est très humaine, et le dernier plan d'elle, c'est quand même elle qui hésite jusqu'à la dernière seconde quasiment si elle va finalement l'abattre de loin, et ce qu'elle ne va pas faire, parce que je pense qu'elle a vraiment conscience que si elle fait ça, elle reproduit, ou en tout cas elle risque de reproduire ce qu'elle refuse de reproduire.
Oui.
Et ce qu'elle a toujours voulu dénoncer, en fait, elle retomberait dans cette idée de cercle vicieux, c'est-à-dire que la violence qu'elle a voulu condamner, elle la provoquerait elle-même, ce qui pourrait reprovoquer une forme de déchéance humaine constante. Et vraiment, moi je trouve que le film est magnifique de bout en bout, et notamment par rapport à toute cette... quasi parenthèse finalement avec un personnage mexicain du père policier,
oui,
qu'on voit au début, qu'on ne comprend pas tout à fait de qui il s'agit, parce qu'il est vraiment en dehors du récit pendant les trois quarts, quoi. Et quand il arrive à la fin, je trouve ça vraiment beau, même si on comprend très vite que le personnage de Benicio del Toro n'est pas super sympa et qu'il a des méthodes
faire le féminisme.
Non mais voilà, quoi, qu'on se dit bien que bon, il fait pas partie du bon côté de la chose. Mais je trouve ça assez beau de voir à quel point cet homme est prêt à tout pour venger sa famille, au point de finalement créer lui-même des drames familiaux en ayant conscience, mais sans le regretter, quoi. Mmh. Et je trouve que ça apporte quelque chose, une strate de lecture encore plus belle au film, que de évidemment avoir envie d'une certaine manière qu'il se venge, parce qu'on comprend assez loin aussi dans le film quelles sont vraiment ses revendications et ses motivations de finalement vouloir venger la mort de sa femme et de sa fille d'un grand baron de la drogue, hein, globalement.
Oui, c'est ça.
Et que finalement son objectif, c'est de lui-même aller tuer ce baron, mais pas vraiment de tuer ce baron, c'est plutôt de le faire souffrir et ensuite de le tuer. Mais que pour en arriver là, il passe par des étapes qui ne lui font ni chaud ni froid, à quel point en fait il est un peu comme le personnage de Hugh Jackman dans Prisoners, aveuglé par sa propre envie de vengeance, quoi. Et je trouve ça assez terrible. Je me souviens plus assez du 2, mais je sais qu'on le suit, lui.
Bah, c'est ça qui m'intéresse dans le 2, c'est qu'en fait t'as pas besoin de cet intermédiaire qui est joué par Emily Blunt, ce qui, je trouve, est beaucoup plus fort émotionnellement, parce que tu sais que t'es avec le mec qui est techniquement le connard de l'histoire, mais qui devient malgré lui le protagoniste, en fait, et qui là est pour le coup vraiment tiraillé dans ses idéaux entre sa volonté de vengeance personnelle, ce qu'il croit d'ailleurs être pour lui une façon d'agir certes en dehors de la loi, mais la seule manière de faire évoluer vraiment les choses sur la guerre War on Drugs. Et c'est ça qui manque un peu pour moi dans le 1, où tous les personnages sont finalement vont jamais vraiment bouger du côté de la barrière duquel ils sont. Ce qui est d'autant plus dommage que le film est, et ça pour le coup c'est très vrai, non seulement je trouve l'un des mieux découpés de Villeneuve, c'est-à-dire, ouais, notamment, bah, on parlait de la scène de l'autoroute, mais tout le moment où les gens s'apprêtent à tirer, où les flingues sont de tous les côtés, tu comprends constamment qui est placé où. Et justement, tu ressens d'ailleurs à quel point Emily Blunt est, elle, acculée à l'arrière de la bagnole, elle peut pas faire grand-chose. Et il y a un stress qui monte à ce moment-là qui est brillant. Et visuellement, grâce à Deakins, notamment, à la photo, mais Villeneuve, il te sort certains de ses plus beaux plans, il te fait vraiment un western dans le sens... vraiment où cet espace de cette frontière qui n'est pas la frontière de l'Ouest mais la frontière du Sud pour le coup est vraiment traité comme quelque chose que tu essaies de repousser, qu'il faut pénétrer par le tunnel, qui est cette espèce de, voilà, comment on définit cet espace là et comment les personnages se retrouvent ou non à devoir évoluer dans cet espace. Je trouve ça passionnant, Et ça lui amène certains de ses plus beaux plans, avec notamment bon, celui qui a été beaucoup commenté à l'époque, mais celui qui fait transition quand ils s'apprêtent à prendre le tunnel de nuit et qu'ils vont activer leur vision infrarouge et nocturne, et que tu as ce coucher de soleil où la frontière de l'horizon fait que les personnages avance vers les ténèbres, en fait, littéralement.
Et ce point est mémorable.
Voilà.
Coup,
ouais. Et t'as un truc, mais en fait, visuellement, il dit des choses tellement fortes que je suis encore plus déçu que parfois le scénario, du coup, se complaise dans cette écriture que je trouve un peu moralisatrice aussi, finalement, tu vois, un peu trop facile, alors qu'elle pourrait avoir cette ambiguïté que pour moi, le 2 a beaucoup plus, tout en étant stylistiquement un peu plus sec. Donc, les deux ensemble feraient peut-être le meilleur des deux mondes, mais voilà.
Ok. Bon, en tout cas, moi, je trouve qu'il y a un truc qui est, pour vite finir sur Sicario, c'est la qualité dont on a assez peu parlé finalement sur Denis Villeneuve, c'est la manière aussi, moi j'aime bien le fait qu'il ne se mette pas vraiment de barrière sur la durée de ses films, hein. Ses films peuvent durer 1h30 comme ils peuvent durer 2h45, à partir du moment où il a fini son film, tu vois, Sicario ça dure 2h01, Ennemi ça dure 1h30, Premier Contact ça durera même pas 2h.
Polytechnique ça dure 1h15.
Non mais voilà, elle a fait vraiment des petits films qu'on il est pas forcément envie de s'épancher, pas besoin de s'épancher quoi, tout simplement. Et je trouve que surtout ces films ont vraiment, pour moi c'est un vrai bonheur, c'est qu'ils rentrent très vite dans leur sujet quoi.
Oui,
Sicario, c'est au bout de même pas 30 secondes, c'est déjà t'es déjà en train d'attaquer, enfin de comment on pourrait dire ça, pas attaquer, mais en gros il y a une
quartier résidentiel où il y a des gens a priori enfermés, enfin des gens a priori enlevés et que tu, enfin libération d'otages.
Ouais c'est ça, et en gros ben direct on rentre dans le vif du sujet quoi. Mmh. Et ce sera pareil dans Premier Contact quand on verra, enfin très vite les aliens arrivent quoi. Enfin c'est au bout de 5 minutes. Prisoners, la gamine elle disparaît au bout de 6 minutes. Hein. Genre on n'a pas attendu 15 ans avant qu'elle disparaisse quoi. Ennemi pareil, il trouve très vite qu'il a un double. En tout cas
j'ai
voilà.
L'impression qu'elle est là aussi, la cassure qu'il a fait entre ses deux premiers films et Polytechnique. Dans ses deux premiers films, notamment dans Maelstrom, j'ai été assez marqué de à quel point l'accident arrive hyper tard dans le récit, et j'ai vraiment l'impression que quand il s'est un peu recentré dans cette période où il a réfléchi à ce qu'il voulait faire, il s'est dit je vais aller à l'essentiel quoi.
C'est ça,
ouais. Et là t'as besoin d'un panoramique super fort, enfin pareil, plan très discuté, hein, du début de Sicario où l'espace t'est tout de suite montré, premier plan, arrière-plan, les personnages qui débarquent tout doucement, ça te donne toutes les clés de la séquence en main immédiatement, et puis ensuite après t'es tout de suite dans le truc de t'es tout de suite à ses côtés à elle se fait tout de suite tirer dessus, et tu vois qu'elle est bonne tireuse, mais qu'à chaque fois elle a frôlé la mort à pas grand chose à chaque fois, et puis il y a l'explosion qui bouleverse le récit, enfin qui devient élément perturbateur. C'est quand même là-dessus, je trouve le film assez balèze. Et c'est pour ça aussi qu'en tant que pur thriller, je trouve le film très efficace, et je trouve qu'il raconte plein de trucs par lui-même. Et je ne sais pas à quel point c'est Sheridan qui s'est pas assez fait confiance, ou Villeneuve qui a tenu à rajouter cette couche par-dessus. Mmh. Mais du coup, je trouve que le film perd un peu en finesse à cause de ça, alors que en tant que thriller et film d'action, c'est assez virtuose. Et pour le coup, tu vois, en l'ayant revu, je me suis quand même dit en le revoyant, putain, c'est vrai que toute la séquence dans le tunnel, c'est vraiment incroyable, et toute la fin, la tension qui se crée sur cette route dans la nuit,
avec
rien,
les phares éteints, etc.
Ouais, c'est incroyable.
Je trouve ça super. Et en effet, pour revenir au tout début, toi, tu sais ce qui va se passer parce que t'es depuis l'extérieur, mais que tu rentres dans la maison et que tu vois le gars qui regarde la télé, et finalement, c'est un peu toi qui est devant ta télé, et bam, ok, ça débarre parce qu'il y a le camion du FBI, en tout cas des forces armées, etc., qui débarque, qui défonce la maison, et c'est vraiment genre, tu croyais que t'allais être installé confortablement dans ton siège en train de regarder un petit film. Pas du tout. Ça va démarrer sur les chapeaux de roue et ça va pas s'arrêter en fait.
Ouais, le scénario était de taille quoi.
Ah là là.
Mon Dieu, j'en peux plus. Ok, bon bah finalement on a quand même plutôt pas mal avancé. Bon, il nous reste encore une réu pour Villeneuve, et comme tout ça est très bien organisé, et bah la prochaine fois on se concentrera sur ces derniers films qui relèvent tous de la science-fiction. Bon bah comme d'hab, j'aurais aimé que ces débats de ce type puissent être transposés en podcast, mais il faudrait encore qu'Écran Large décide de sauter le pas. Mais c'est compliqué, il faudrait rappeler aux auditeurs qu'il faut s'abonner, de mettre 5 étoiles sur leur appli d'écoute et de commenter, et on devrait en retour bien évidemment les remercier parce que c'est normal et important.
Et oui,